France Inter, le 18-20.
Quand elle est arrivée à la tribune de la COP24, Greta Thunberg a scotché tout le monde. 15 ans, en grève scolaire depuis le mois d'août, un discours puissant qui a fait mouche devant un parterre très adulte et de très puissants décideurs. Surtout, vous nous envoyez dans le mur, a-t-elle dit plus poliment, mais tout aussi fermement. De Greta est venue l'idée belge de manifester tous les jeudis, qui était déjà là, un peu plus, et le mouvement prend, il s'étend. Les jeunes au Royaume-Uni, les jeunes en Allemagne, les jeunes aux Pays-Bas se mobilisent, et bien sûr en France aussi. Demain, manifestation devant le ministère de la Transition écologique, 22 février à suivre derrière, c'est le rendez-vous suivant, et puis journée de grève scolaire mondiale prévue cette fois par tout le monde pour le 15 mars. Bref, étudiants, lycéens, les jeunes n'ont plus confiance en nous pour lutter contre le réchauffement climatique et ils ont bien raison. Dans quel monde êtes-vous en train de nous faire vivre? Dans quelles entreprises voulez-vous que l'on travaille? Quels animaux auront encore disparu d'ici à nos plus vieux jours? Où sont vos engagements de la COP21 après et même avant d'ailleurs? Ils prennent les ministres, ils prennent les chefs d'entreprise, les décideurs de tout poil de front. Ces jeunes engagés, certains sont là, sur le plateau, autour de cette table ce soir. Et on compte sur vous, évidemment, qui avez le même âge, pour rappeler. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Et Antonia, on commence avec vous, Antonia. Bonsoir et bienvenue au téléphone sonne.
Oui. Bonsoir. Je voulais tout d'abord vous remercier de consacrer une émission à ce sujet. Et vous confier mon témoignage pour vous dire que oui, la jeunesse s'engage et la jeunesse a vraiment besoin d'avancées politiques réelles sur le climat. Et donc, je suis en terminale littéraire à Valence, dans la Drôme, et je fais partie d'un club au lycée où nous avons décidé d'organiser depuis 4 semaines maintenant une mobilisation tous les mercredis matin à la récréation de 10h devant notre lycée où nous nous manifestons avec un brassard vert derrière une banderole. Et nous invitons tous les lycéens à nous rejoindre. Et donc, dans l'objectif de la grève du 15 mars, où on va regrouper tous les lycéens et tous les étudiants de notre ville.
Et ça marche, Antonia, et de mieux en mieux, il y a du monde pour participer à tous ces rassemblements?
Oui, en effet, on constate qu'il y a de plus en plus de lycéens qui viennent, mais dès le début, tout le monde était très partant. Dès qu'on explique, dès qu'on donne aussi des actions concrètes à réaliser chacun chez soi, et qu'on explique la portée politique et universelle du message qu'on veut faire passer, les gens n'hésitent pas à nous rejoindre. Et donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un élan concret qui est derrière nous.
Merci beaucoup pour ce premier témoignage, Antonia, qui donne bien le ton de ce qu'on a envie d'entendre, en tout cas ce soir au téléphone sonne, pour parler ensemble et réagir à tous ces témoignages. Eliott Lepers est là, bonsoir. Vous êtes co-initiateur, Eliott, du mouvement On est prêt, avec un point d'exclamation sur YouTube, initiative en faveur du climat. Léna Devancé est là, bonsoir Léna. Et bonsoir aussi à Antoine Soulas, à vos bonsoir. Côtés, étudiant bonsoir. Engagé dans le collectif Jeunes du Pacte France Climat, organisateur aussi de la mobilisation. Non? Si?
Pacte Finance Climat.
Pacte Finance Climat, qu'est-ce que j'ai dit?
France Climat.
Ah bah oui, bon, en même temps, voilà. Mobilisé dans les actions qui se passent en ce moment et dans la manifestation qui aura lieu demain, non?
Pas, Léna? C'est pas le Pacte Finance Climat qui est mobilisé demain.
Non, mais vous êtes mobilisé, excuse-moi Léna, ok, très bien. Vous êtes mobilisé quand même dans ce qui voilà, va se passer demain, on est d'accord avec ça, ok? Et vous serez dans cette fameuse journée mondiale du 15 mars ensemble également, et là pour le coup tous les trois. Sandy Dauphin est là également, vous êtes spécialiste environnement à France Inter, est-ce que
bonsoir.
Je l'ai bien dit?
Oui.
Sandy, tout va bien, nous deux on fait tomber la moyenne d'âge et c'est tant
je
mieux.
Je vous remercie Fabienne.
Je voudrais vous entendre réagir à ce que dit Antonia, parce qu'il y en aura beaucoup des témoignages comme cela, Eliott Lepers par exemple. Il y a eu un déclencheur à un moment, vous êtes tous très engagés depuis longtemps, vous les jeunes de toute façon, parce que la conscience du climat vous l'avez, mais à un moment pour sortir dans la rue, pour montrer des choses, il faut qu'il y ait un déclencheur. Le déclencheur, c'était quoi, c'est où en fait?
Moi, je pense que il s'est passé un truc quand Hulot a démissionné et qu'effectivement, il a montré que le gouvernement n'était pas à la hauteur. Il a montré qu'en fait, les derniers espoirs qu'on pouvait avoir de se dire que l'action politique était en train de gérer ce qui était en train de se passer, la situation avec la COP21, l'accord de Paris qu'on nous a présenté comme une énorme réussite diplomatique, on y croyait encore peut-être un petit peu, pas moi, mais plein de gens, je pense. Et effectivement, quand il a démissionné, il a dit en fait non, on n'y arrive pas, on n'est pas en train de faire ce qu'il faut. Pour tout le monde, ça a été un choc super fort. Et donc derrière, on sait ce qui s'est passé. Trois marches, plus de 130 000 personnes, trois fois de suite. Ça, c'est du jamais vu en France, quoi. Et puis, des jeunes partout qui maintenant disent on n'a pas de futur. En fait, on n'a pas de futur. À quoi ça sert d'aller finir nos études? À quoi ça sert d'aller en cours si tout simplement tout ça n'a aucun sens?
Les avancées, même Hulot n'y est pas parvenu effectivement. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que votre pression à vous fait qu'à un moment, ça permettra d'avancer les choses?
On est jeune, j'imagine qu'il y a un rapport à ça et que au niveau médiatique, voir la jeunesse se soulever et aller dans les rues aussi nombreuses, voilà, c'est, les gens sont sensibles à ça.
Et le déclencheur pour vous, ça a été quoi? Parce qu'il en faut un pour que les gens sortent, pour qu'il y ait des manifestations comme celle que Antonia nous a racontée, mais comme celle des Belges, comme ce que vous allez faire demain et les jours suivants. Le déclencheur pour vous, ça a été quoi?
Je pense que Elliot a assez raison et que depuis la démission de Nicolas Hulot en août dernier, et le phénomène des marches depuis septembre, il y en a eu une en octobre, en décembre, et puis l'Agora en fin janvier. Voilà, il y a un mouvement climat qui se met en place. Il y a eu aussi Greta Thunberg qui a lancé le mouvement des jeunes pour le climat. Et bon, c'est pas encore arrivé en France, c'est en train d'arriver et on y est. Voilà.
Est-ce que Greta Thunberg, effectivement, a probablement beaucoup marqué les esprits, Antoine Soulas, parce qu'elle a 15 ans, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle parlait à ce groupe d'adultes et en même temps, on l'a fait venir. Est-ce qu'il y a une crainte d'une espèce d'effet marketing, en fait, qu'il faudra dépasser avec Greta Thunberg?
Ouais, pas chez tous les écolos, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on défend, les organisateurs de la mobilisation itinérante pour le climat. Donc certes, reconnaissons à Greta tout ce qu'elle mérite, et vraiment, elle a lancé quelque chose d'énorme. Elle a une visibilité médiatique immense. Après, on découvre, par exemple, Reporter a publié un article très intéressant récemment qui montre un peu l'arrière-plan de tout ça. Nous, on essaie d'éviter la divinisation de Greta, parfois, qu'il y a. On n'a pas envie de se ranger derrière des Greta de manière un peu aveugle. Et donc, on cherche à garder une certaine identité, sachant qu'on a des modes d'action un peu différents. On propose notamment de la désobéissance civile, chose que Greta ne revendique pas.
Alors,
du tout.
On va y venir au mode d'action. Alors, pardon de poser la question, c'est un peu la question à la mode en ce moment. On a besoin d'un leader dans ces cas-là, dans ce genre de mouvement-là, ou pas? C'est aussi à ça que ça sert, hein, une Greta Thunberg, au fond, Elliot Lepers. Est-ce qu'on a besoin d'une figure, en fait? Pour vous.
Je pense qu'on a besoin d'exemples, mais on n'a pas forcément besoin d'icônes. Et on l'a vu, effectivement, on a vu Pierre Rabhi il n'y a pas longtemps, qui s'est effectivement pris plein de critiques. Et effectivement, Greta Thunberg qui se prend, aussi quelques articles qui sont un peu critiques sur les méthodes et qu'elle a démenti. C'est normal, quelqu'un qui est porté au nu comme ça, à un moment donné, on va forcément, surtout sur l'écologie,
et
on attend les écolos d'être parfaits.
Et dépasser peut-être parce qu'il lui arrive par ailleurs, au fond, non? Ou dépasser un peu parce qu'il lui arrive ou pas?
Ouais, évidemment, oui. Quand on a, je pense, 15 ans, et que tout d'un coup, on se retrouve à avoir sur les épaules les attentes de toute une génération pour devoir porter ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis des décennies. Mais je pense que c'est un bon exemple parce que ça montre que c'est possible et ça a donné de la motivation à plein de gens. En revanche, on a besoin de dépasser cet exemple, on a besoin effectivement de construire notre propre objectif.
Allez, quelles solutions justement? On va commencer avec les solutions de Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir.
Et bienvenue au téléphone sonne, Victor.
Merci de prendre ma question. En fait, je suis un jeune ingénieur de la construction bois. Et moi, il y a quelque chose qui me choque dans le débat autour de l'écologie, c'est qu'on parle pas du tout du secteur de la construction, qui pourtant est un secteur qui émet beaucoup de CO2 et qui utilise beaucoup de matières premières non renouvelables. Alors, je voudrais juste faire une introduction sur le bois, où en fait, quand on produit du bois, quand on produit 1 mètre cube de bois, on capte 1 mètre cube, une tonne de CO2, pardon. Quand on produit du 1 mètre cube de béton, on rejette 3 à 4 tonnes de CO2 dans l'oxygène. Et en fait, actuellement, il y a beaucoup de constructions qui sont en béton, c'est de l'ordre de 90% à peu près en France, et on construit pas assez en bois. Pourtant, il y a les technologies qui sont là, il y a les ressources qui sont là. Donc ma question, c'est pourquoi est-ce que les politiques ne font pas plus d'efforts pour développer la construction bois?
Et j'en profite avant qu'on essaye de répondre autour de la table à votre question, parce qu'en même temps, pourquoi les politiques autour de nous, je ne sais pas si on aura cette réponse-là, mais vous, Victor, est-ce que le jeune ingénieur que vous êtes, vous avez 24 ans, arrive à faire passer ce genre d'idée, à essayer de faire changer un certain nombre de choses dans cette direction-là, ou c'est compliqué avec vos interlocuteurs, l'entreprise avec laquelle vous travaillez ou dans laquelle vous travaillez?
Alors dans mon entreprise, non. Par contre, avec les interlocuteurs, donc les architectes et surtout les clients qui sont des clients publics, oui, c'est compliqué parce qu'il y a toujours ce phénomène de prix qui bloque un petit peu cette transition écologique qui pourrait se faire grâce à la construction bois.
Merci.
Ça a juste à apporter un élément de précision pour casser un peu les préjugés. Mm-hmm. En France, on récolte moins de bois que ce qu'il ne pousse chaque année.
Voilà. Merci.
Donc, les forêts sont très bien gérées et il n'y a pas de problème d'approvisionnement.
Merci pour ce témoignage, Victor, et au fond pour cette idée. Léna Devancé, vous allez en avoir plein des idées comme ça qui vont venir, qui viennent déjà, j'imagine, d'autres après la marche de demain et celle d'après. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez les mettre ensemble? Comment vous allez les porter? Comment ça va se passer?
Oula, ça va être compliqué. Je ne vais pas être...
Non, mais pas forcément sur le bois de Victor, hein, mais sur les différentes propositions qui pourront être faites ici et là.
Je pense qu'il va falloir s'organiser ensemble et qu'ensemble on arrive à définir un modèle de société viable dans lequel ce soit un modèle de société juste. Ensuite, comment mettre en place toutes ces idées c'est un peu une question... C'est très vaste.
Et chaque chose en son temps. Par ailleurs, Elliot Lepers, est-ce que vous avez réfléchi, est-ce qu'on a réfléchi à ça, à tout ce qui arrive, tout ce que tout le monde a en tête, là, Victor, on entendra Susan dans un instant, Fabien juste après. Qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là?
Bon, moi, ce qui me gêne un peu avec les solutions, c'est qu'en fait, ça peut nous endormir un peu. Ça peut nous faire croire que la technologie va nous permettre de régler le problème. Il y a un enjeu d'abord, c'est de produire moins, de consommer moins. Et donc, par exemple, de produire moins d'habitats, des habitats plus petits parce que ça demande trop d'énergie à chauffer, des habitats qui soient passifs énergétiquement. Aujourd'hui, il y a encore 15% des foyers qui vivent dans des passoires énergétiques, qui sont en précarité énergétique, qui n'arrivent pas à se chauffer parce que c'est trop cher. Et donc, il faut effectivement qu'on rénove déjà ce qui existe pour que ce soit plus efficient. Il faut qu'on ait peut-être un service public de la rénovation énergétique parce qu'aujourd'hui, on ne tient pas le rythme de rénovation. Donc toujours, je fais toujours attention aux solutions parce que évidemment, il va y avoir de la technologie qui va nous permettre et plein de bonnes idées qui vont nous permettre d'avancer. Mais avant tout, il y a des décisions politiques qui vont pas forcément être faciles à prendre. Et c'est ça qui nous aujourd'hui met dans la mouise, quoi. C'est qu'on ne veut pas regarder en face la réalité du problème et c'est-à-dire prendre des décisions difficiles.
Vous avez entendu, j'imagine, Antoine Soulas, mais vous autres aussi, la fameuse pétition, l'affaire du siècle, qui arrive devant le Premier ministre aujourd'hui et qui récuse un certain nombre de choses qu'il y a dans cette pétition, et notamment l'idée de l'inaction climatique. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte comme argument quand on a moins de 25 ans comme vous et qu'on a envie d'essayer de mettre ça sur le devant de la scène?
Oui, qu'est-ce qu'on récuse pour prouver qu'il y a une inaction climatique?
L'inaction climatique, je sais que c'est votre truc, ça a été récusé par le Premier ministre. Qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on met sur la table pour qu'on dépasse ce mur en fait qu'on vous met en face de vous, puisqu'on répond ah bah oui mais non, il n'y a pas d'inaction climatique.
Oui. Alors enfin déjà de la part d'un certain nombre de jeunes, on n'attend plus grand-chose de ce gouvernement et en fait on n'est pas vraiment sur la table de ce gouvernement. On essaie simplement de montrer à ce gouvernement qu'il est inefficace et on espère poser les jalons d'un gouvernement futur qui aurait une vraie conscience écologique, peut-être même une gouvernance européenne. Donc déjà il y a des idées. Donc si vous voulez une idée concrète, en tant que représentant du collectif du Bac Finance Climat, c'est une idée à l'échelle européenne très forte. Hein, l'idée de la création d'une banque pour le climat qui générerait 1000 milliards. De fonds directement investis dans la transition écologique. Voilà, ça c'est une proposition concrète. Ensuite, il faut souligner aussi les limites de ce projet et faut se poser les questions aussi de la dimension internationale du problème. Si la France fait quelque chose, c'est bien, c'est insuffisant. Si à côté de ça, la Chine et les États-Unis continuent à émettre 15 fois plus que nous, on est fichu. Donc la question de la dimension internationale du problème écologique, c'est vraiment l'épine numéro 1 pour les écologistes. Et donc, à partir de là, on a deux solutions. Soit on espère un soulèvement international de la part de tous les peuples dans le monde entier en même temps, ce qui semble impossible.
Pas tout de suite.
Soit on espère une gouvernance internationale, une vraie volonté politique forte au niveau international. Mais ça, pour l'instant, ça s'appelle les COP et c'est un échec total. Donc, en fait, pour le dire clairement, on est vraiment mal. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune?
En même temps, pardon, excuse-moi Antoine, mais il va falloir aussi essayer de montrer que c'est un mouvement positif.
C'est ce que font les jeunes en ce moment. Donc, par exemple, c'est ce que fait la mobilisation étudiante à Paris, où chaque semaine, on propose une revendication très simple, mais très concrète, sur ce qu'on peut faire. Donc là, notre première cette semaine, c'était tout simplement s'aligner sur les accords de Paris, et donc prendre des mesures contraignantes par le gouvernement pour diminuer de 4% chaque année les émissions de gaz à effet de serre. Et là, demain, on en publie une suivante qu'on ne peut pas révéler tout de suite. Mais si vous voulez des idées, je peux vous en parler.
Mais allez-y, non, mais c'est bien ça le principe en fait. C'est quelles idées, comment on fait pour avancer, comment vous faites-vous pour avancer plus vite que ce qui s'est fait aujourd'hui?
C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que la COP24, elle a fait le bilan de la COP21. Donc les COP, hein, c'est tous les ans. Donc ça veut dire que la 24, c'est la 24e. Parfois on oublie. Et on a fait le bilan de la COP21, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas un seul pays de l'Union européenne qui a tenu ses engagements. Donc ça, c'est très simple. C'est-à-dire que ce que dit le Premier ministre, c'est tout simplement faux. Simplement qu'ils ne veulent pas regarder en face la réalité. Et bon, à la rigueur, enfin, le problème, c'est déjà effectivement de ne pas avoir fait le nécessaire, mais ne pas regarder la vérité en face. Alors que tous les signaux sont là. Alors que le ministre le plus populaire démissionne. Alors qu'il y a 2 millions de personnes qui signent une pétition, alors qu'il y a des gens qui vont dans la rue tous les mois. Et continuer à bille en tête, affirmer que c'est bon, le gouvernement fait ce qui est nécessaire, c'est assez criminel, parce que on a besoin de prendre la mesure. Et le rapport du GIEC, le rapport spécial du 8 octobre, qui a un peu sonné le signal d'alarme, disait... Il est encore temps de faire quelque chose, mais il faut qu'on s'y prenne tout de suite et il faut qu'on mette en place des mesures radicales. Et là, ce que nous dit le gouvernement, c'est regardez ailleurs, on s'en occupe, on va bien, alors que la semaine dernière, on a supprimé le facteur 4, le fameux objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre.
Est-ce que vous avez rendez-vous demain, par exemple? Non, quand je vous demandais si on vous écoutait, vous allez devant le ministère de la Transition écologique. Est-ce que vous savez si vous serez au moins reçu, si on écoutera ce que vous avez à dire, ou pour l'instant, vous n'en savez rien? Léna, vous le savez ou pas?
Ça m'étonnerait qu'on soit reçu devant le ministère. On est en grève, on est des étudiants en grève qui allons manifester devant le ministère. Je vois pas pourquoi on ouvrirait. Bah
parce que vous êtes nombreux, parce qu'il y aura des caméras, parce qu'il y aura des banderoles. Enfin, vous savez, il y a mille manières de faire pression. C'est bien ce que vous essayez de faire, c'est ce que j'ai compris.
Ouais, pour l'instant, on est surtout entre nous et on s'organise et on discute entre nous pour savoir ce qu'on veut vraiment revendiquer et ce qu'on veut vraiment proposer. Je sais pas si on est prêt à être reçu, même si on était reçu. Je sais pas si ce serait une bonne idée qu'on soit reçu, parce que il faut faire attention, faut réfléchir ensemble à ce qu'on veut porter et dire. Il y a plein de choses à dire. C'est un phénomène très complexe, le dérèglement climatique, parce que c'est systémique. Donc on peut pas dire n'importe quoi. Et puis si on était reçu, et ben il faudrait qu'on s'organise pour savoir ce qu'il faudrait, ce qu'on voudrait vraiment dire.
Bonsoir Susan.
Bonsoir
Susan. Et bienvenue Susan, on t'écoute.
Bonsoir, je suis à l'origine d'un mouvement qui s'appelle l'Alarme Verte. Donc c'est un mouvement qu'on a lancé sur Instagram dimanche, qui compte déjà près de 800 followers. Et en fait, avec mon amie Louise, on a décidé, nous, notre façon de procéder, ce n'est pas faire des manifestations ou bien participer à des actions avec des casseurs, etc. Nous, on cherche plutôt à sensibiliser les jeunes et du coup, on décide de tous porter une larme verte. On a espoir que de plus en plus de jeunes en France portent cette larme verte. C'est un jeu de mots entre une alarme et une larme, parce qu'on sonne l'alarme et qu'on est triste pour notre environnement. Donc c'est comme ça qu'on décide de sensibiliser les jeunes, et on se dit que ça pourra peut-être faire plus réagir le gouvernement, que les jeunes montrent qu'ils sont tristes. Parce que je pense qu'en France, il y a déjà beaucoup de manifestations et que, bien sûr, on ne les rejette pas. On est d'accord de faire des marches et de discuter ensemble, en fait, d'écologie. C'est-à-dire que cette larme verte, ça permet d'ouvrir un dialogue et donc une discussion. Et de la discussion naîtra la mobilisation, sûrement. Et on pense ainsi pouvoir peut-être pas changer les choses, mais sensibiliser les jeunes à la cause éco-responsable.
Et merci Susan pour ce témoignage. Elliot Lepers, une petite chose après l'autre, hein, au fond, et pourquoi pas l'alarme verte de Susan?
Moi, je trouve ça génial que partout, il y ait des gens qui essayent de lancer un signe de ralliement, en fait, que tout le monde essaye de voir qu'est-ce qui nous permet de nous mettre ensemble, qu'est-ce qui fait la différence, quoi, qu'est-ce qui fait la bascule. Et alors voilà, est-ce que c'est 800 followers, est-ce que c'est 2 millions de signatures, il y a plein d'échelles. Voilà, après, ce qui est fascinant avec cette cause, c'est comment est-ce qu'on réagit différemment. Et il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont écrasés par le poids de ce qui nous reste à faire, et puis il y en a qui disent on est prêt, on est prêt à changer notre quotidien, et pour montrer que on n'est plus le frein au changement. C'est ça qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on se met ensemble et qu'on se questionne sur qu'est-ce qui nous bouge, qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer ensemble, mais avec le mot d'ordre commun qui est de foutre la pression sur les décideurs et de leur dire vous n'êtes pas à la hauteur et maintenant on attend des mesures immédiates.
Sandy.
J'avais juste une question. Est-ce que vous faites du prosélytisme? C'est-à-dire, est-ce que vous allez également chercher les jeunes qui, il faut bien dire ce qu'est, qui s'en moquent en fait, hein, qui n'ont pas l'intention de changer leur mode de consommation, qui ne se sentent pas concernés par l'urgence climatique? Est-ce que vous allez également, entre guillemets, prêcher la bonne parole? Ou bien non, vous estimez que ce n'est pas votre rôle?
Antoine, peut-être ?
Oui, si vous voulez. Donc, la mobilisation étudiante, par exemple, tous les vendredis, elle se passe en deux étapes. Certes, il y a la mobilisation de l'après-midi, hein, où on se retrouve devant un lieu stratégique, mais le matin, c'est sensibilisation, débat, conférence, réflexion dans les facs. Donc, si vous voulez, là, demain...
C'est quoi l'accueil ? Les gens vous disent, passe devant, vous distribuez des tracts, les gens ne prennent pas les tracts, ou est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un intérêt ?
Non, je pense qu'il y a un intérêt et que les gens ne disent pas non quand on parle d'écologie. Donc, nous, on est dans un milieu parisien. Les gens savent à peu près ce que c'est et connaissent un peu le sujet. Ils ont l'habitude de voir des gens qui parlent d'écologie. Je ne sais pas si ça se passe comme ça partout. Et malheureusement, peut-être qu'on devrait aller faire ça un peu plus loin et un peu plus loin de Paris.
Antoine ?
Oui, si je peux ajouter un truc. On était à la plénière avec l'ENA d'organisation du mouvement climat, avec les grandes assos qui organisent les marches pour le climat, Alternatiba, etc., 350.org. Et on a rencontré quelqu'un, des représentants de ATD Carmont, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est une association qui passe en difficulté, bien sûr. Et il nous a raconté des choses assez choquantes, hein, parce que évidemment, nous, dans nos milieux assez privilégiés, forcément, on entend parler tous les jours du réchauffement climatique, mais dans certaines banlieues difficiles, même en France, il est venu voir des jeunes, et il leur a parlé du réchauffement climatique, et on lui a ouvert de grands yeux, quoi. Donc, le message n'est pas passé partout, ça c'est sûr.
Elliot parlait de pression tout à l'heure. Comment on fait pour faire monter la pression ? Vous parlez-vous de désobéissance écolo ? Ça peut ressembler à quoi au fur et à mesure ? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez en tête et que vous avez inventées ?
Oui, non, on n'a pas inventé la désobéissance civile. Hein. C'est quelque chose de très vieux qui a été théorisé depuis des décennies. Mais si vous voulez, on s'est tourné vers la désobéissance civile sans faire que ça, parce que l'idée c'était la multiplication des modes d'action. C'est-à-dire quand on est associatif écolo, enfin Elliot, tu dois être d'accord avec moi, on a toujours l'impression de donner tout ce qu'on peut et d'avoir un résultat quasiment nul par rapport aux efforts qu'on a fournis.
C'est un apprentissage de l'échec.
Voilà, c'est un apprentissage constant de l'échec. À partir de là, on se dit tout est bon à prendre, tous les moyens sont bons à prendre. Enfin, certains se disent ça, hein, avec l'ENA, c'est notre point de vue. Et donc, on continue à être des associatifs traditionnels, mais on s'est lancé aussi dans la désobéissance civile. Et donc, qu'est-ce que ça peut être?
Voilà, qu'est-ce que ça peut être, quoi?
J'y viens. Donc, une manière très, très efficace, à notre avis, c'est le blocage. Quand on a un site qui fait quelque chose d'écocide, par exemple ce qui se passe à Romainville en ce moment, le terrassement des dernières forêts vraiment vierges à Paris, ou ce qui s'est passé, ce qui a failli se passer à Notre-Dame-des-Landes ou à Repas City, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut bloquer. On peut bloquer les chantiers, on peut bloquer les activités néfastes, et pareil pour les activités économiques. On peut bloquer des activités d'entreprise quand elles sont néfastes pour l'environnement.
Et c'est le sens de la question que j'allais vous poser, en fait. Jusqu'à quel point la manif pacifique, comme ce qui se passe en Belgique par exemple, effectivement de manière répétée, et que peut-être se passera effectivement tous les vendredis chez nous, jusqu'à quel point ce genre d'action vous semble efficace, et à quel moment on se dit on va devoir passer au stade supérieur, parce que simplement des caméras dans la rue et voir que les jeunes sont dehors, c'est une chose, mais il va bien falloir avancer plus loin. Est-ce que déjà vous savez que de toute façon, cette étape 2 de désobéissance écolo, désobéissance civile, elle existe déjà, elle est déjà là?
Oui, pour nous, elle est nécessaire. Puis on a vu Extinction Rebellion aux États-Unis, au Royaume-Uni qui s'est lancé là, il y a quelques mois. Et peu à peu, les groupes de désobéissance éclosent un peu partout. Et donc ça germe dans les esprits. Pourquoi? Parce que voilà, on voit des marches pour le climat qui rassemblent 50 000 personnes à Paris en septembre. On ouvrait tous des grands yeux devant ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Zéro réponse du gouvernement, un silence absolu. Donc certes, il y a 50 000 personnes dans la rue, mais on n'a rien obtenu. Les Gilets jaunes, en quelques mois, ils ont obtenu beaucoup plus que nous en mettant 50 000 personnes dans les rues.
Et en même temps, avec aussi beaucoup de bruit et beaucoup de fureur, on va pas débattre là-dessus, mais vous l'avez en tête, j'imagine, en vous disant, faut-il effectivement, on va pas parler de violence, mais être plus vindicatif que simplement une manifestation, Elliot Lepers, quand on voit ce qui s'est passé ces dernières semaines?
Je pense que dans le logiciel écolo, il y a d'abord l'idée de non-violence quand même, il faut le rappeler. Et il faut pas du tout mélanger violence et désobéissance civile. La désobéissance civile, elle est par nature non-violente, parce qu'elle est civile. Et le principe, c'est effectivement d'aller être un grain de sable dans le système, d'aller empêcher le système d'avancer pour que le système soit obligé de s'interroger. Et si on en est rendu là aujourd'hui, c'est parce que les leviers démocratiques ne fonctionnent pas. C'est parce que notre colère devient tellement forte et qu'on est tellement peu entendu, et parce que le Premier ministre nous dit que ils font ce qu'il faut, on est obligé d'aller vers le blocage. Mais c'est pas nouveau. Le problème, c'est que ça va devenir de plus en plus nécessaire au fur et à mesure que l'urgence grandit.
Jean-Baptiste, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir Madame Fentes et bonsoir à l'ensemble de vos intervenants. Alors au vu du fonctionnement, de la richesse et de la puissance des États, pour le PIB régi par la croissance de la nation, quelle qu'elle soit, pour grossir, croissance que nous souhaitons depuis plus d'un demi-siècle infini. Mais est-ce donc compatible avec notre terre qui, elle, est finie en termes de ressources, or, pétrole, acier, or, bois, etc. Peut-être pourrons-nous rétablir notre système d'étalonnage de la croissance. Voilà, simple réflexion que je m'étais posée.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et une réflexion que vous avez aussi, j'imagine, décroissance, changement de modèle, l'inadvancée, c'est des choses sur lesquelles, évidemment, on réfléchit aussi en même temps.
Et voilà, depuis... On a tous entendu parler du développement durable. Bon, pendant un moment, le développement durable, c'était le modèle en matière d'écologie. Bon, depuis quelques années, le développement durable est quelque chose de très critiqué dans les milieux écolos, tout simplement parce que, bon, est-ce que développement et durable, ça va ensemble? Est-ce que le développement peut vraiment être écologique, sachant que ça sous-entend extraire toujours plus de matériaux et avoir un impact environnemental d'autant plus fort. Bon, il est clair que je crois que la réponse est non.
Antoine ?
Oui, pour ajouter quelque chose, oui, dans notre appel des mobilisations pour le climat étudiante, on a une phrase marquante qui est « le capitalisme ne sera jamais vert ». Et Nicolas Hulot, en démissionnant sur ce plateau, je crois d'ailleurs, a formulé les choses clairement en disant on s'évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques. C'est assez simple. Le capitalisme, c'est un mécanisme de surenchère. C'est-à-dire, on a des entreprises en concurrence libre. Et donc, s'il y a une entreprise qui fait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle exploite un peu plus les ressources naturelles ou un peu plus les hommes, ou qu'elle délocalise un peu plus loin, ou qu'elle se met à faire un peu plus de publicité mensongère, toutes les autres doivent s'aligner, sinon elles coulent. Et donc, c'est un mécanisme qui mène à la surenchère, et donc peu à peu, si on regarde de toute façon tous les indicateurs économiques, écologiques, etc., on a toujours des courbes exponentielles tout le temps depuis les années 50. Et c'est dû à cette organisation ultralibérale.
Et je voudrais qu'on fasse rentrer Émilie dans le débat, justement. Bonsoir, Émilie.
Bonsoir.
36 ans, un peu au-dessus de la moyenne d'âge, si je puis me permettre.
Oui, je me considère que je ne suis plus dans cette génération.
Mais allez-y, on vous écoute.
Mais je vois cette mobilisation avec beaucoup d'espoir. En même temps, il y a quelque chose qui m'interroge, parce que moi je crois fermement qu'on arrivera à sortir de cette difficulté que aussi en changeant nos habitudes de consommation de masse. J'ai entendu aussi que les jeunes gens qui étaient là étaient aussi très parisiens. Et ma question est-ce que vous-même, individuellement, vous avez réussi à révolutionner votre propre mode de vie? Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à avoir votre propre voiture? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à avoir un téléphone portable ou alors choisir un Fairphone? Est-ce que vous êtes prêt à passer du temps pour aller faire vos courses plus loin dans des choses où il y a moins d'emballage? Voilà, cuisinez vous-même pour avoir moins de produits transformés. Est-ce que vous en êtes là aujourd'hui dans votre mode de vie?
Merci beaucoup, Émilie, pour cette remarque. Où vous en êtes? Oui, parce que c'est peut-être plus difficile pour nous, les plus vieux, de repartir en arrière que pour vous d'avancer différemment. Par exemple, est-ce que vous avez un téléphone portable ou pas, ou un petit Nokia qu'on ne citera pas? Est-ce que vous avez un mode de vie qui ne ressemble pas au fond à celui de vos parents, Léna?
Je pense que mon mode de vie ressemble à celui de mes parents, à part sur quelques points. Par exemple, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion. La dernière fois que je l'ai pris, c'était en hiver pour partir en vacances avec eux. Je leur ai dit depuis que je ne prendrai plus l'avion parce que c'est un désastre écologique. Quand on mène une vie dans une ville moderne, c'est difficile de se détacher de plein de choses, tout simplement parce que, par exemple... le portable, l'ordinateur, et ben on en a besoin pour les cours, pour retrouver les amis ou ce genre de choses. Oui, donc la question de l'éco-responsabilité en ville, dans une ville moderne, je sais pas si finalement elle peut ça peut être compatible. Je me posais la question en fait.
Antoine, l'achat en vrac, la deuxième main sur les vêtements seulement, enfin toutes ces choses, moins de viande, plus
de...
ne pas commander tous ces repas, arrêtez de me regarder comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez intégrées, ça, ou effectivement vous avez une difficulté? Moi je trouve ça très bien ce que Léna nous explique, que oui, c'est pas si simple non plus. C'est pas comme si ça suffisait de claquer dans les doigts en disant je suis devenu éco-responsable de A jusqu'à Z. Sur le encore une fois, le vrac, les vêtements, etc. Est-ce que vous travaillez dans cette direction-là, Antoine, ou pas?
Oui, et puis bon, beaucoup d'écolos le font. Il y a certaines choses qui sont assez entre guillemets, faciles à faire, comme le fait de plus prendre l'avion, le fait de devenir végétarien, le fait de ne pas avoir une voiture quand on habite en ville et de prendre le vélo. Pour ce qui est, ouais, bon, la consommation éthique, essayer d'acheter, non pas du neuf, mais
par exemple, Antoine, est-ce que tu as le permis de conduire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, oui, ça sert à rien que je passe le permis au fond parce que j'ai pas besoin de voiture, donc j'ai pas besoin de cette forme de pollution là.
Ouais, moi j'étais un peu comme ça. D'ailleurs, j'ai ni le permis ni le code, mais je repose sur mes amis du coup,
qui eux l'ont. Voilà. Et c'est bien de le dire comme ça, Antoine.
Ouais, j'ai passé le permis pour une raison assez simple, c'est que c'est peut-être que certains critiquent.
Non, mais t'as le droit. Non, parce qu'après, il y a effectivement, il y a ce qui est facile et ce qui l'est beaucoup moins. Et ça aussi, ça fait partie de tout le débat qu'on a tous et qu'on aura tous.
Oui, puis c'est même pas forcément qu'une question de facilité. C'est aussi une question que, la voiture, c'est scandaleux du point de vue écologique, mais ça serait un peu écœurant, en fait, de voir que toutes les générations précédentes ont profité de cette chose qui est quand même quelque chose, un outil de liberté absolument fantastique.
Mais Antoine.
Non, mais attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. D'avoir profité de cet outil de liberté absolument fantastique qui permet, par exemple, qui permet des choses fantastiques. Ça serait un peu écœurant de se dire, on doit s'en débarrasser, sachant que tous les autres continuent. Mais j'espère très bien ne jamais en posséder de ma vie, je ferai tout pour, et je l'utilise de manière extrêmement rare, peut-être, je sais pas, quelques rares fois dans l'année, pour faire quelques kilomètres.
Et charge pour vous d'inventer l'autre méthode d'ailleurs, l'autre moyen. Aujourd'hui, peut-être que vous savez pas comment vous circulerez dans 10 ans, j'espère au fond, Eliott Lepers, qu'on sait pas comment on circulera dans 10 ans.
Ouais, moi je pense qu'il faut d'abord savoir, ce qui pollue le plus c'est la bouffe, donc c'est simple, aujourd'hui on mange 60 kilos de viande par an.
Donc par exemple, est-ce que vous avez arrêté de manger de la viande?
Moi j'ai pas arrêté, mais j'ai réduit énormément. Nos grands-parents, ils en mangeaient 20 kilos par an, par personne, donc c'est 3 fois moins, c'est assez simple. Ensuite c'est effectivement les transports, la semaine dernière, j'étais à Berlin pour le boulot. J'ai fait 8h30 de train, aller-retour. C'était génial. C'était beau. C'était un peu plus cher. C'est la boîte qui a payé, mais c'est un engagement qu'on a pris pro. Et puis après, c'est les vêtements, c'est le textile. Et donc là, c'est acheter moins, ne pas subir la fast fashion, ne pas acheter dans des grandes enseignes qui brûlent les vêtements après 2 semaines, etc. Donc ça, c'est simple à faire. Mais c'est très important. Et moi, je voudrais répondre à Émilie. C'est super important de dire que tout ne doit pas reposer sur nos épaules. C'est trop facile de nous faire porter la culpabilité de ce système. Il faut changer la question industrielle. Il faut changer le système. Il faut changer la politique. Évidemment, on peut montrer l'exemple, c'est important. Ça permet aux industriels de se rendre compte qu'il se passe un truc. De Carrefour, par exemple, de mettre du bio partout, pas cher, de ressortir des graines anciennes. Bon, on en pense qu'on veut. En tout cas, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il se passe un truc. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il faut des offres végétariennes. Ça envoie un signal et ça veut dire que c'est compté. Mais ça suffit pas. Ça doit être un moyen de foutre le rapport de force aux dirigeants pour que ce soit pas à nous d'assumer ce changement-là. Ça doit venir du système, ça va venir des décisions politiques.
Antoine, avant de retourner rapidement.
Rapidement, pour répondre sur ce que tu dis, je suis totalement d'accord. On est dans un système en fait qui incite à la consommation et qui fait que même si nous on essaie de devenir des sains écolos, il y aura toujours cette tentation qui fait tout pour qu'on ne le soit pas. Donc il faut changer ça en profondeur.
Mais il y a forcément des trucs au milieu en fait, entre effectivement acheter les derniers fringues et être comme tu dis un saint écolo. Il y a mille choses au milieu de ce que je comprends et de ce que vous nous dites d'ailleurs.
Le problème c'est que cette situation milieuse, même si on arriverait à les définir, ça serait sûrement probablement quelque chose comme je sais pas, un Français moyen qui consomme 3 à 4 planètes par an, quoi. Le problème écologique, c'est vraiment un changement drastique du mode de vie. Et ça passera forcément par un changement drastique aussi du système. Et, je vais m'arrêter là.
Non, mais, tiens, ça nous donne l'occasion d'écouter Diane, qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonsoir, Diane.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous vos invités. Moi, je vous appelle parce que je suis enseignante, en fait. Et en tant qu'enseignant, en fait, on est de plus en plus nombreux à se dire qu'on ne veut pas laisser nos jeunes tout seuls, en fait, face à cette responsabilité absolument gigantesque de faire bouger les choses. Et donc là, on a créé un collectif qui était petit au départ, mais qui grossit assez rapidement, qui s'appelle Enseignants pour la planète.
Ah, super.
Et dans ce collectif, on a fait un appel qui a été publié sur Reporter et qui a déjà 3200 et quelques signatures. Et dans cet appel, on appelle nos collègues à faire la grève le 15 mars, et donc à nous-mêmes en fait prendre nos responsabilités et être aussi nous-mêmes dans la rue avec aux côtés de nos étudiants et de nos élèves, en tout cas de nos des plus grands. Donc voilà, on est, il n'y a pas que les jeunes qui bougent et les profs sont là derrière eux, quoi.
Est-ce que je peux juste vous poser une question en tant qu'enseignante? Est-ce que vous vous sentez suivie par l'éducation nationale dans les programmes? Est-ce que il y a des gestes dans les établissements scolaires, le tri, des incitations à avoir des comportements plus écologistes? Est-ce que vous avez ce sentiment d'être suivie ou pas?
Alors, il y a des petites choses qui se passent, effectivement. On peut pas dire que l'enseignement au développement durable, ça n'existe pas. Mais outre que nous, on est de plus en plus critiques sur cette question, justement, de cette notion du développement durable, c'est quand même un enseignement qui reste très, très, déjà, quand même assez limité au cycle primaire. Ensuite, on oublie un peu ça au collège et après. Et puis... Ensuite, même ça reste dans les enseignements, voilà, quelque chose de très 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 limité, quoi. Très. Et nous, on appelle à une vraie réflexion aussi sur les enseignements pour que dans nos enseignements, on adapte ce qu'on enseigne à la nouvelle conjoncture, en fait.
Merci beaucoup, Diane Antoine. Je vous entendais dire super quand Diane disait que c'est vous qui disiez super. Sans Elliot, pardon. Je vous entendais dire super quand Diane disait que les profs devaient aussi participer.
Ouais, non, mais c'est super cet appel effectivement des enseignants. Il y a aussi le manifeste pour un réveil écolo qui a été signé par 30 000 étudiants. Évidemment, quoi. Ça veut dire que tout le monde est en train de bouger. Et sur l'éducation, c'est la clé. C'est quand même tout part de là. C'est qu'il faut qu'on forme la génération qui va tenir tête, la génération qui va faire trembler l'industrie, la génération qui a envie de plus faire pareil, quoi. Moi, j'ai monté l'application 90 jours il y a 3 ans. C'est un coach qui aide à devenir écolo. On a des dizaines de milliers de jeunes de moins de 15 ans qui téléchargent l'application, qui sont comme des dingues à vouloir faire tout et qui sont là à dire mes parents sont ringards, ils veulent pas changer et tout. Donc ça commence là, quoi. Il faut absolument que dans les écoles, la révolution commence dans les esprits, quoi.
On va rappeler, puisqu'il nous reste que 30 secondes, Léna, ce qui se passe demain à Paris, ce qui se passera le 22, donc la semaine suivante. Sauf si subitement tout change, et ce qui se passera derrière demain déjà. Donc, c'est le premier rassemblement en France sur le modèle de ce que font les Belges depuis 7 ou 8 mercredis jeudi d'affilée.
4 ?
4 ? Non, plus que ça. Plus, 7 ouais. Au moins. Donc, demain, il se passe quoi ?
Alors, demain, c'est le premier jour de grève. On a un appel à rassemblement devant le ministère de l'écologie à 14h. Et donc, c'est le premier jour de grève pour les étudiants, pour le climat.
Et c'est le premier vendredi. Il y a eu d'autres jeudis qui étaient des jeudis belges. Il y a des jeunes des Pays-Bas, il y a des jeunes du Royaume-Uni aussi. Et donc.
Et il y aura une grève mondiale des jeunes le 15 mars.
Voilà, qui est en train de s'organiser. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux et aussi sur toutes les applis et autres sites que vous nous avez cités. Merci beaucoup. Merci à tous et portez-vous bien comme d'habitude.